Parcours, tribune de libre expression sur FM Liberté, là où la parole se libère pour rapprocher les hommes et susciter l'action. Débat, commentaires, interviews, analyses et réactions. Tous les sujets d'actualité politique, économique et sociale, vus et commentés par les grands acteurs au micro de Kodjo Epou. Parcours, c'est tout un autre son de cloche. Et c'est sur FM Liberté, la radio de la diaspora.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs de la radio de la diaspora africaine, bonjour et bienvenue à cette édition de Parcours. Il n'y a pas si longtemps, le chef de l'État togolais, à la veille du 13e sommet de la francophonie tenu dans la ville suisse de Montreux, avait consigné dans un éditorial que la marche vers un Togo nouveau s'est accélérée de manière décisive à l'occasion de la présidentielle de 2010. Élection qui, selon lui, avait consacré la normalisation de la vie institutionnelle et politique. Et le président d'affirmer que l'accord de gouvernement entre la majorité et l'opposition est le fidèle reflet de cette nouvelle donne. Pour Faure Gnassingbé, je le cite encore, « Le climat politique apaisé est désormais notre atout majeur ». Fin de citation. Au moment où le célèbre éditorialiste publiait dans la Tribune de Genève son article faisant état de sa nouvelle donne à lui, son pouvoir était encore largement contesté dans la rue au Togo, un pays encore sous le choc des propos d'une rare gravité tenue par le président de l'Assemblée nationale, Abbas Bonfo, pris en flagrant délit de dénégation pure et simple des massacres de 2005. Lorsqu'on interroge les observateurs sérieux de la vie publique nationale, ils ne cachent pas que le Togo est bien loin de sa normalisation, tant au plan économique, de la démocratie que des droits de l'homme. Le CVU, Collectif pour la vérité des urnes, fait partie des nombreuses organisations de la société civile qui ont cloué au pilori le chef de l'État pour ce que d'aucuns n'ont pas hésité à qualifier de grotesques publications dont l'objectif, font-ils savoir, est de tromper encore une fois l'opinion internationale. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas exagéré d'affirmer que le Togo est un pays toujours en crise. Et comme à une crise, il faut nécessairement une solution, il devient impérieux de la voir en face, de voir en face cette crise et surtout d'éviter de nier son existence. Quelles sont, par ordre d'importance, les choses essentielles à faire pour que le Togo retrouve la voie d'une normalisation authentique et réelle, à l'instar de ses voisins qui, eux, continuent de marquer des points dans tous les domaines? C'est là, entre autres, une des questions cruciales, voire de survie, auxquelles va se consacrer cette édition de Parcours sur la radio de la diaspora FM Liberté. Notre invité du jour est Dr Yves Ekoué Amaizo, une personnalité qu'on ne présente plus au public africain et encore moins aux Togolais. Il est le coordinateur international du CVU, président du think tank Afrologie et consultant international en gestion de projets et de business. Dr Amaizo, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous êtes le coordinateur international du collectif pour la vérité des urnes, CVU. Un collectif qui a été très actif ces derniers mois au Togo. Pouvez-vous nous citer quelques résultats tangibles qu'on peut mettre à l'actif de votre jeune association?
Bien sûr. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Et puis, tout le travail très important que fait la radio FM Liberté pour la liberté d'expression en général et celle de la vérité des faits, plus particulièrement au Togo.
Merci.
Alors, à ce titre,
merci.
Je crois qu'il est important que vous... Nous avons constaté, nous au CVU, que vous en faites... En tant que médias et journalistes, vous poursuivez les mêmes objectifs. Il s'agit d'avoir la vérité des urnes et la vérité des comptes.
Oui.
Alors, en fait, il faut avoir la vérité tout court. Et cela, je fais référence donc à votre introduction, qui est très juste et qui constate ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé à la francophonie à Montreux, puisque le chef d'État n'était pas présent là-bas.
Oui.
Donc, il est important qu'on puisse retrouver le chemin du destin même du Togo, et non pas que ce destin du Togo lui soit imposé, pas un groupe d'individus qui, généralement, bon, d'après nos analyses, ont deux grandes visions, celle alimentaire et celle patrimoniale de la gouvernance.
Ouais.
Et nous constatons que, finalement, sur plusieurs décennies, il y a quand même beaucoup de manque de courage, puisque tout le système consiste à se perpétuer au pouvoir. À la rigueur, on peut comprendre, mais on ne comprend pas pourquoi ce système ne peut pas, qui est d'ailleurs clanique, créer de l'argent, créer de la richesse, et ensuite de le partager d'une manière ou d'une autre à la population sous forme d'emploi, de travail, d'éducation, etc. Donc il y a vraiment une forme d'usurpation pour une partie de la population, notamment la plus jeune, qui n'est qu'une continuation de ce qu'ont fait les agents de la colonie, voire de la post-colonie, ce qui nous amène à conclure que nous ne croyons pas que ce groupe travaille pour les intérêts des Togolais, en tout cas pas en termes de priorité, et que souvent, ça se fait sur le dos de la population.
Ouais.
Et donc, il est très important que nous comprenions comment fonctionne ce système-là. Et votre question est très pertinente, puisque ce système fonctionne comme un aspirateur de personnalité pour pouvoir se perdurer au pouvoir, et qu'en fait, à travers les 4 ou 5 décennies qui viennent de se passer, la création d'un pouvoir d'achat n'a vraiment pas eu lieu. Nous le voyons avec les manifestations tant sociales que politiques qui existent au Togo ces derniers temps, en dehors même du problème de l'élection. Et deux, on n'arrive pas avec ce système, qui est le système, pour être précis, du rassemblement du peuple togolais, du RPT, avec lequel on peut ajouter maintenant les amis de Gilles Olympio, les AGO, ouais. On n'arrive pas à créer un espace où le Togolais ou les Togolais et Togolaises se sentent heureux et libres dans leur propre pays. Parce que c'est ça la finalité d'un mouvement citoyen, c'est d'amener les gens à se sentir libres dans leur pays. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de compter uniquement des résultats ou de faire des propositions directes. Nous pensons qu'au fond, il y a une forme d'hypnotisation du peuple togolais, qui bien sûr n'est possible que si le système repose sur la force, notamment des militaires anti-républicains. Il faut donc sortir de cette hypnose-là. Et ce n'est pas possible sans les libertés publiques, sans les médias que vous êtes, sans le fait aussi d'empêcher de la neutralisation des partis politiques, quels qu'ils soient. Et donc tout ceci, vous êtes en train de nous interroger sur quelles sont les formes possibles d'un changement dans ce pays-là. Mais la population elle-même, j'aimerais bien attirer votre attention là-dessus, parce que nous avons plusieurs religions monothéistes, hein, quelles sont les religions africaines même, hein, autochtones, le judaïsme, l'islam, tout ça. On se pose la question, mais la vérité, tout simple, dont on a fait mention tout à l'heure, où est-ce qu'elle est? Puisque beaucoup de ces gens-là qui participent à ces cultes religieux, souvent se taisent. Alors nous comprenons que la force aussi peut faire que, dans tel ou tel cas, les gens se taisent. Malheureusement, quand c'est des élites, cela pose problème.
Oui.
Alors les stratégies négativistes, vous les avez évoquées d'un certain nombre de personnes, mais vous savez, le devoir de mémoire se fera au Togo tôt ou tard.
Oui.
Donc vous avez bien raison, il nous faut trouver des repères assez exhaustifs pour s'en sortir. Je crois que les points que je peux vous dire, il y en a 4. Il y a une prise de conscience accrue que le CVU a pu faire pour les Togolais et Togolaises, et surtout la communauté internationale. Parce que vous savez que beaucoup de décisions sur le plan financier dépendent de cette communauté internationale.
Oui.
Sur la contre-vérité au Togo, c'est-à-dire qu'on nous démontre que ce qui est dit sur les sites officiels, gouvernementaux et autres, n'est pas nécessairement proche de ce qui est la réalité sur le terrain. Je crois que cette prise de conscience, nous avons contribué d'une manière ou d'une autre, ainsi qu'avec d'autres.
Oui.
La deuxième chose, je pense qu'il était important de rappeler aux bailleurs de fonds qui ne peuvent pas continuer à se faire berner en finançant des dépenses privées, des dépenses extravagantes, des dépenses qui ne créent pas de la prospérité ou du bien-être pour la population, ou en tout cas la grande majorité de la population. Je crois que là aussi, nous avons fait un grand pas, puisque des grandes organisations comme la Banque mondiale ou d'autres commencent à toujours poser la question, mais qui finalement va payer pour telle ou telle dépense? Et si c'est peut-être sur le budget de l'État, à ce moment-là, il y a un certain nombre de critiques qui se lèvent, ce qui permet de défendre des positions de la population sans voix. Le troisième point important, et ça je crois que nous sommes nombreux à avoir contribué, c'est les entorses aux droits humains que vous connaissez, le négativisme, les séquestrations. On a séquestré des représentants des partis politiques, des syndicats, les biens mal acquis. Voici encore un élément très important au Togo qui se fait sur le dos des contribuables, du nord comme au sud d'ailleurs, ce n'est pas un problème de nord-sud. Et bien sûr, ce refus systématique d'accorder le droit de vote à la diaspora togolaise. Là-dessus, nous insistons, nous avons encore pas eu des résultats. Donc c'était le troisième point. Et le quatrième, je pense que nous y avons aussi un peu contribué, c'est une proposition de sortie de crise, cette crise sociopolitique dont vous avez parlé. Mmh. Et nous avons fait quelques propositions dont nous aurons l'occasion de discuter. Je crois que ces quatre grands points sont importants et nous ne pensons pas qu'on puisse faire une solution de sortie de crise sans faire référence à de l'éthique, hein, et regarder comment fonctionne un tel système qui ne sont que des vestiges d'un ancien parti unique.
Oui. Et justement, nous avons souvent constaté que le CVU est très actif sur ces points que vous venez de citer là, et parce que nous lisons beaucoup vos écrits qui essentiellement dénoncent le régime du RPT au Togo sur un certain nombre de points. Maintenant, le CVU est-il seulement une structure de dénonciation ou prend-il aussi l'initiative d'autres actions qui sont jusque-là inconnues du grand public et dont les fruits ne tarderont pas à se faire sentir? Est-ce que vous pouvez nous lever un peu le coin du voile sur cette question?
Alors, c'est une question très, très intéressante, puisque la notion de dénonciation, elle est très importante. Je pense qu'il faut poser la question différemment. C'est-à-dire que si le système du Rassemblement du peuple togolais, RPT, aujourd'hui avec l'alliance AGO, les amis de Gilles Kessolimpio, avait choisi un système de transparence et vérité des urnes, je ne pense pas qu'il y aurait des mouvements citoyens, des partis politiques qui se mettraient à les déranger. Au contraire, ils viendraient les soutenir. Nous constatons, au contraire, qu'il y a une institutionnalisation de la contre-vérité au Togo. Et c'est parce qu'il y a ce système qui est très négatif pour l'ensemble de la population, manque de transparence, bon, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, qui pose le problème de savoir pourquoi on doit dire d'autres choses à la communauté internationale. C'est en cela que la notion de dénonciation est peut-être le mot fort, mais nous cherchons simplement à dire la vérité des faits et la vérité d'un point de vue d'un mouvement citoyen, puisque les journalistes, les médias le disent aussi de leur point de vue, ils sont beaucoup plus dans l'actualité. Nous sommes plus dans l'analyse pour voir en perspective, au fond, malgré tout ce qu'on peut dire, est-ce que nous avançons ou est-ce que nous reculons? Et donc, de ce point de vue, nous devons toujours chercher et à ramener les analyses au plus proche possible de ce qui pourrait paraître être une vérité. Et généralement, si c'est partagé, et nous donnons même des droits de réponse, et nous ne comprenons pas que pour le moment, beaucoup de choses que nous avons dites n'ont pas été démenties. Ça, c'est pour la notion de dénonciation. Maintenant, vous avez entièrement raison. Est-ce qu'il y a d'autres actions? Bien sûr, il y a plusieurs autres actions qui, n'ont pas toujours besoin d'être révélées. Parce que vous les révélez, vous n'avez aucune chance qu'elles puissent fonctionner.
Oui.
Deux, vous savez très bien comment fonctionnent les chancelleries et les ambassades. Beaucoup d'ambassadeurs sont présents au Togo, par exemple. Et bien sûr, ce qu'ils entendent d'un point de vue du gouvernement et ce qu'ils entendent d'un point de vue des partis de l'alternance est peut-être différent. Quelle est leur proposition propre et ensuite celle qui est transférée dans leur capitale respective et qu'ils vont peut-être transformer en politique vis-à-vis du Togo? Ça, ce n'est pas toujours évident. Et là, il faut absolument les influencer d'un point de vue positif, c'est-à-dire dire la réalité, qu'en fait, une mauvaise gouvernance, un soutien actif à la France-Afrique dans le cadre du Togo n'est pas nécessairement un bien pour un pays comme la France ou un bien pour tel ou tel pays si on prend d'autres pays occidentaux. Ce travail est très très important parce que si nous sommes absents, il n'y a que le son de cloche pour ne prendre que la France-Afrique, il n'y aura que le son de cloche de la France-Afrique vis-à-vis de l'État français. Et au bout d'un moment, si vous êtes, il n'y a qu'un seul son de cloche, donc une seule personne ou un seul groupe de personnes qui parlent, les absents ont toujours tort. Et de ce point de vue, Nous devons faire ce travail de citoyen dans les deux sens. Mais je peux vous donner quelques résultats quand même, puisque vous savez que le 16 octobre, il était prévu un défilé au Togo très important, qui a été annulé.
Oui.
Vous savez que le président de la République devait venir à New York au moment du sommet des Nations Unies, qui a été annulé.
Oui.
Vous savez que même pour Montreux, ça a été annulé à la dernière minute.
Oui. Bon,
quelles que soient les raisons qui nous échappent toujours, et que beaucoup peuvent avancer ici et là, nous constatons malgré tout que ces annulations ont lieu une fois que non seulement le CVU, mais d'autres membres de nos circuits et de notre réseau ont contacté des parlementaires, des représentants européens, en fonction ou des anciens, et plus important, les partis politiques d'opposition dans les pays occidentaux. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, qui est très important, parce que c'est là que se créent les nouvelles générations. Et vous savez, beaucoup, avant de rentrer en politique, ont quand même des critères pour dire qu'un pays marche bien ou mal, ou est éthique ou pas, et démocratique ou pas. Et quand nous arrivons à nous approcher de ces gens-là, oui, effectivement, nous arrivons à faire un certain nombre d'activités qui sont inconnues du grand public. Bon, les résultats, ça, vous savez, nous sommes des gens de l'influence, donc les résultats dépendent et en même temps du bon Dieu et en même temps de notre action citoyenne et beaucoup de bonne volonté aussi de ceux qui nous écoutent.
Oui, effectivement, en vous écoutant et en écoutant beaucoup de personnes à travers le monde, que ce soit à Lomé, en Afrique ou bien ici en Occident, et une chose est évidente, et des fois ça saute à l'œil, le Togo est en crise. Votre association est-elle favorable à la tenue d'un dialogue entre le rassemblement du peuple togolais au pouvoir et l'opposition démocratique? Selon le CVU, dont vous êtes le coordinateur international, que faudra-t-il négocier et que faut-il éviter de négocier?
Alors, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. La première, c'est les mots que vous choisissez. Vous avez choisi le mot dialogue. Alors, non seulement le CVU est favorable, mais nous préférons parler de concertation organisée. Et nous ne sommes pas les seuls, d'ailleurs.
Ouais.
Et cette concertation doit avoir lieu à plusieurs niveaux, en tout cas au moins deux. Parce qu'il faut distinguer les partis au Togo qui défendent la vérité des urnes, quel que soit le nom du parti, et les partis qui s'en éloignent ou le falsifient, ou préfèrent vivre avec la contre-vérité. Nous n'allons pas citer de nom ici, mais vous voyez qu'en gros, il y a deux grands axes de partis politiques au Togo. C'est que sur plusieurs années, le peuple togolais même s'est trompé, puisque certains qu'on croyait du côté de la vérité des urnes se sont retrouvés du côté de la contre-vérité des urnes, et vraisemblablement vice-versa pour telle ou telle personnalité. Donc il était important que le temps passe pour que la clarification du jeu politique entre ceux qui défendent la vérité des urnes et dans l'intérêt des populations soit différente de ceux qui ne le font pas. Il en est de même pour le système militaire, parce que là aussi on a compris maintenant que ce n'est pas l'armée tout seul. Dans l'armée, vous avez des gens qui sont des républicains, des démocrates, des gens qui respectent la légalité du pays, et puis vous avez d'autres qui l'utilisent, soit en abus, soit justement pour défendre des intérêts purement privé, personnel.
Oui.
Donc, quand cette distinction a été clairement faite, je ne vois pas pourquoi le dialogue dont vous parlez, que j'appelle ma concertation, ne peut pas avoir lieu. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas aller discuter avec ceux qui vont, en fait, vous abuser, ou ceux qui ne vont pas respecter une fois les engagements pris, vont faire autre chose. Ce qui semble arriver pour un certain nombre de groupes qui ont choisi peut-être de travailler actuellement. Donc il faut bien faire cette distinction, c'est très très important, pour éviter des désillusions par la suite. Mais vous avez raison, il faut un dialogue qui doit être structuré, cadré. Et pour le faire, nous avons même fait des propositions. Il faut une plateforme qu'on appelle, nous, la refondation démocratique du Togo. C'est très important, le mot démocratique, parce qu'il y a des gens qui proposent, des partis politiques même, qui aient une refondation, mais alors, ils disent l'autre mot, républicain. Alors, nous sommes allés vérifier. Mais vous savez, c'est très, très dangereux, parce que si vous allez faire une structure dans laquelle il n'y a pas de démocratie, mais c'est quand même républicain, écoutez, ça veut dire que c'est la loi du plus fort. Et on ne peut pas présenter ça au peuple togolais. Donc, la refondation doit nécessairement être démocratique. Bien sûr, elle doit être aussi républicaine. Et à ce moment-là, nous pouvons avancer. Mais au-delà des termes, il va falloir en fait avoir tout simplement un document. Un document de base sur lequel un certain nombre de choses sont dites, un programme sont mis en œuvre pour avancer. Sinon, nous allons retomber dans l'erreur précédente. Vous vous rappelez des accords politiques globaux de Ouagadougou, dans lequel les discussions ou les dialogues dont vous parlez étaient plutôt une forme de dialogue unilatéral. les décisions plus ou moins unilatérales. Beaucoup de choses sont restées dans le vide, ce qui expliquait les difficultés pour les élections. Certains groupes partis, voire même le facilitateur, étaient juges et partis dans un certain nombre de décisions. Et on comprend, puisque une partie des marchandises passe par le Togo, le port, avec notre port en eau profonde, et remonte. Donc on a plus intérêt à garder des bons contacts avec ceux qui sont déjà au pouvoir, qui ont fait ce nombre de facilités pour ne pas payer des impôts et autres, que de changer un système qui va certainement remettre des taxes en route. Mmh. Pour dire tout ceci, et le résumé, il n'y aura aucun tabou dans ce genre de négociation. Pourquoi il devrait y avoir un tabou? Mais vous savez qu'au Togo, nous avons un problème de fond depuis une quarantaine d'années, c'est l'armée. Donc le rôle même de l'armée est incontournable dans cette discussion-là. C'est-à-dire qu'une armée ne peut pas aller à l'encontre des intérêts de sa propre population, soit en les frappant, en les tapant, en empêchant la liberté de fonctionner. Donc il va falloir trouver une fonction à cette armée-là, peut-être la rendre volontaire, et au-delà de ça, trouver un moyen qu'ils vivent décemment, c'est-à-dire leur trouver des emplois. Et l'armée n'est pas éternelle. On peut très bien faire une année, deux années, cinq années, partir et faire des allers-retours d'ailleurs, dans le civil, retourner à l'armée et vice-versa. Donc il y a des nouvelles formules qu'il faudrait mettre en place pour éviter que le fait de ne pas être payé, des groupements de plus en plus indépendants, s'arrogent des droits et vu qu'ils vont jusqu'à l'usurpation des biens publics, qui vont jusqu'à peut-être même, pourquoi pas, je le dis, à mettre en otage ceux-là même qui sont censés diriger le pays. Ouais. Et du coup, vous voyez que c'est un travail de fond, d'expertise indépendante, qui doit se faire d'abord, proposer ce cadre de travail, un document, une feuille de route, et à partir de là, le proposer à l'ensemble des partenaires politiques, à ce moment-là, les partis politiques, qui peuvent le revoir, le rediscuter entre eux, et une fois le consensus obtenu, le mettre en œuvre.
Oui, et mais très souvent au Togo, en fait, dans la situation du Togo, les dialogues ou bien les concertations, au lieu de régler la crise, créent de nouveaux problèmes. Et vous en avez parlé légèrement, c'est que on confond l'opposition, c'est-à-dire on met tout dans l'opposition. Et même ceux qui ne sont pas de l'opposition sont placés, sont mis sur les bancs de l'opposition, et ce qui fait qu'on arrive à un dialogue qui ne règle absolument aucun problème, et avec beaucoup de non-dits et avec beaucoup de contours, et le nœud reste entier. Parlez-nous un peu de ce qui serait la prospective du CVU s'il faut définir et désigner les forces politiques devant représenter l'opposition démocratique à cet éventuel dialogue ou bien à cette éventuelle concertation.
Alors, tel que vous formulez la question, qui est très très pertinente, je vais encore vous donner un autre mot qui est précis maintenant, c'est qu'on va quitter même le dialogue pour aller vers la négociation. Il va s'agir maintenant d'une vraie négociation. Et quand on doit négocier, alors il faut absolument, les partis politiques, les associations, citoyennes ou pas d'ailleurs, les syndicats, de manière qui sont représentatifs, du peuple togolais. Et toute forme, même les chefs traditionnels, pourquoi pas. Alors, ce groupe que je viens de citer doit être structuré. Et ne peut être structuré que sur la base d'un minimum en termes de programme ou d'action à faire ensemble.
Oui.
Parce que, après tout, c'est quoi la politique? C'est la volonté de vivre ensemble sous un certain nombre de règles communément admises. Et vous voyez que si cette structure, cette règle, ce cadre, ces repères ne sont pas au moins clarifiés, il y a des gens qui viennent et qui finalement d'abord vont dans l'un ou dans l'autre sens, changent quasi régulièrement, ce qui fait la transhumance politique, et trois, au fond, ne donnent aucune importance à un programme ou une proposition, puisque au fond, on peut changer tout le temps. Donc cette forme, disons, d'opportunisme, qui a été le symbole finalement de beaucoup de problèmes togolais, devrait pouvoir s'arrêter si nous clarifions le jeu, au lieu d'avoir 80 et quelques partis politiques, qui peuvent toujours d'ailleurs exister, au moins deux grandes tendances, ceux qui veulent défendre la vérité des urnes, bon, et les autres, puisque quand on leur dit la contre-vérité des urnes, ils disent que ce n'est pas tout à fait cela. Donc, ils peuvent se déclarer et trouver un mot ou un nom eux-mêmes. Alors, qui doit être dedans? Moi, je pense qu'aujourd'hui, La question est bien posée. On ne peut pas contourner le FRAC. Mais le FRAC n'est pas une structure juridiquement établie en tant que parti politique, à moins qu'ils soient dans leur objectif de le faire rapidement, ce qui permettrait d'avoir d'autres, les membres, les anciens UFC FAB qui sont devenus ANC, les gens Adi, bien d'autres encore qui sont dedans, à laquelle il faut quand même rajouter le parti au but de M. Gbeome Kodjo pour une raison simple, puisque c'est lui qui a dit, dès la fin des élections dernières, présidentielles, que lui pense, et après, d'après ses chiffres à lui, que voici le vainqueur des élections présidentielles au Togo.
Oui.
Et donc, ce groupe-là, je pense, en tout cas, peut former un noyau principal. Mais il doit être structuré et reposé sur les noyaux sociaux, d'où l'importance des syndicats et des associations, parce que la dernière marche qui a été réprimée avec plus de 50-60 personnes blessées, des mobilettes, des motocyclistes qui ont été saisis, on ne sait même pas comment les gens vont récupérer tout ceci sans compter les blessés, hein, ou les gaz lacrymogènes qui sont lancés à bout portant sur des individus togolais. On peut se poser la question à ce moment-là, si ces groupes sociaux, en dehors même des partis politiques, n'ont pas eux aussi des revendications très importantes qui ne se limitent pas simplement à la hausse des prix et qui vont beaucoup plus profond, c'est-à-dire pourquoi les richesses togolaises, le porc, le phosphate et bien d'autres, n'arrivent pas à se transformer en amélioration d'un hôpital, une amélioration d'une route, une amélioration d'une école et j'en passe, et des meilleurs. Donc le groupe là, je pense, s'ils arrivent à s'entendre, pourrait former une petite base pour ce que vous appelez bon, l'opposition. Je voudrais en parler d'alternance. Parce qu'on n'est pas opposés, les gens ne sont pas opposés au fond, c'est des Togolais, les citoyens togolais. Ils sont des alternances, et ces alternances vont et viennent, ceux-là même qui vont venir demain matin vont changer aussi, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème que vous n'avez pas soulevé, que je soulève tout de suite, que peut-être beaucoup de gens n'ont pas encore fait attention, l'ANC, cette alliance qui a été créée par Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui où nous parlons, le 2 novembre, entre vous et moi, n'existe pas.
Oui.
Puisque l'administration, à travers la voix du ministre Bojona, a dit que les règles n'ont pas été respectées, les détails ne sont pas tout à fait connus, et donc la balle est retournée dans le camp de Jean-Pierre Fabre, qui doit respecter un certain nombre de critères pour remplir et respecter la charte des partis politiques. Et d'après nos informations, on a quand même un petit problème à ce niveau-là, puisqu'il s'agirait de contester le fait que les gens qui ont quitté l'UFC de Justice Olympio pour rejoindre donc l'ANC ne peuvent pas, au fond, démissionner collectivement. Alors, vous voyez ce que ça veut dire concrètement. Si vous devez démissionner individuellement et qu'il n'y a qu'un seul président du parti UFC, il va falloir donc lui envoyer un courrier individuel pour qu'il accepte de vous laisser partir. D'après nos informations, il serait d'ailleurs aux États-Unis et non pas à Lomé. Ça va prendre un petit peu de temps pour que le courrier arrive et ça va prendre un autre petit temps qu'il prenne la décision et encore un autre temps quand il ne prend pas la décision du tout. Alors que l'ANC doit répondre dans les 30 jours. Et là, les jours sont en train de courir. Donc dans 30 jours, nous allons voir si ce parti existe ou pas au Togo. Et il ne faudrait pas que ça soit utilisé, ce moyen de pression administrative, ce que j'appelle d'ailleurs une dictature administrative, ne soit pas utilisé pour faire pression, pour empêcher la constitution d'un mouvement large, disons, d'alternance, tel que ça avait été en fait vu par les gens de l'ANC.
Oui, et finalement, l'on a l'impression que le Togo n'a jamais organisé une conférence nationale, une assise nationale au cours de laquelle il était essentiellement question de régler une fois pour de bon et la crise togolaise. On a l'impression que cette conférence n'a jamais existé. Mais l'histoire nous dira qui a ramené le Togo à la case départ.
FR Liberté, l'esprit du patriote.
Eh bien, revenons brièvement sur un nom, vous l'avez prononcé tout à l'heure, que beaucoup de gens veulent considérer comme fini et appartenant désormais au passé. Et je parle de Jules-Christ Olympio. Si vous avez à commenter sans langue de bois les motivations mises en avant par le leader de l'UFC pour rejoindre le gouvernement, notamment et quand il disait soulager les souffrances du peuple, alors que diriez-vous? très brièvement, parce que ça relève du passé aux yeux de beaucoup de personnes.
Oui, c'est vrai que c'est du passé. Bon, quelques précisions. Le CVU ne verse jamais dans la langue de bois. Nous sommes mouvement citoyen et notre objectif, c'est que nous sommes proches des vérités. Deuxièmement, ce qui est très important dans votre question, c'est que personne n'est politiquement fini. Vous savez qu'en politique, il y a toujours des rebonds.
Oui.
Nous pensons que Jesus Olympio, après des longues analyses et peut-être même des difficultés avec lui-même, a fini par céder à ce nombre de Togolais qui continuent à croire qu'ils sont dans son parti, qui continuent à croire qu'il suffit d'accepter les rôles subalternes dans une alliance gouvernementale pour faire avancer les choses. Nous avons eu des expériences passées, puisque certains disaient même qu'il faut aller changer tout le système de l'intérieur. Donc vous avez entièrement raison quand vous dites qu'il n'y a jamais eu une volonté d'abord réelle de s'asseoir autour d'une table pour en finir une fois pour toutes avec un système. Mais ceci ne peut pas avoir lieu puisque ça voudrait dire qu'il y a alternance par définition. Donc la notion de gouvernement d'union nationale que tout le monde aime bien dire et que tout le monde croit, qui est due beaucoup aussi aux gens qui ne comprennent pas bien comment fonctionnent ces histoires politiques, qui croient qu'on met toute la viande dans une sauce et la sauce est bonne, mais vous savez, quand vous mettez du poisson et que nous on a mangé le poisson avant, il n'y a que les arêtes, la sauce ne peut pas être bonne, vous allez manger que les arêtes. Donc il faudrait revoir ces proverbes togolais qui induisent en erreur les analyses stratégiques d'un certain nombre de peuples togolais. Donc ce qui semble aller de soi, c'est qu'il y a eu un accord entre Gilles-Christ Olympio et le gouvernement actuellement, les gens du RPT, et nous sommes persuadés, compte tenu du passé et le fonctionnement de ce RPT et ce système, qu'il ne peut pas ne pas avoir de désillusion du côté de Gilles-Christ Olympio, ça prendra le temps que ça prendra, et deux, nous sommes persuadés aussi que le problème financier qui était quand même derrière, vous savez qu'en 1962, le Togo avait suffisamment d'argent pour créer sa propre monnaie, et c'était en décembre 62 et janvier 63, on a tué Sylvanus Olympio. Et donc cette histoire de création d'une monnaie qui revient à l'ordre du jour avec la monnaie régionale pourrait avoir été aussi bloquée, parce que cet argent, depuis cette date, qui on ne sait pas trop, pourrait se libérer, dépendait justement et de ceux qui en avaient une sorte d'héritage, entre guillemets, notamment la famille Olympio, et puis le gouvernement. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Il va falloir faire une enquête pour comprendre exactement. Alors les deux choses, si vous les mettez ensemble, ont permis de créer des priorités. Et donc je répondrai bien à votre question. Je pense, moi, et en tant que CVU, que oui, Jesus Olympio cherchait réellement à soulager les souffrances du peuple togolais. Par contre, je pense qu'il a seulement mis des priorités. Et dans ces priorités, vous avez d'abord ses amis, qu'on appelle même aujourd'hui les amis de Jesus Olympio, les agos, certainement lui-même, et puis après les autres, le peuple togolais.
Oui, le peuple togolais est en troisième position. Oui, j'apprends également à nos auditeurs, hein, enfin je ne leur apprends rien, et c'est publié partout sur les sites et dans les journaux au Togo, qu'il y a une petite restructuration au niveau de certains cabinets au Togo, et les agos ont bénéficié de 3 postes de directeurs de cabinet, 3. Sur les 5 nominations qui ont été faites, et c'était lors du dernier conseil des ministres, c'est à savoir. Alors, chez vous, au CVU, comment avez-vous accueilli la création de l'ANC, et peut-on s'attendre à un quelconque bouleversement majeur de la donne politique au plan national en général et au niveau du FRAC en particulier, avec la naissance de cette nouvelle formation du FRAC que préside Jean-Pierre Fabre?
Alors, je ne peux pas vous cacher, nous étions contents. Nous pensons qu'il fallait, pour Jean-Pierre Fabre, clarifier le jeu politique et qu'on ne pouvait pas continuer à vivre avec l'ancien nom, ex-UFC, UFC tendance Fabre, tout ça là n'était pas quelque chose de structuré. Donc, nous n'avons aucun problème pour la création d'une structure politique. Ce n'est qu'une augmentation, amélioration de la démocratie.
Oui.
Alors, le problème, c'était de savoir, fallait-il créer un parti ANC plutôt d'opposition aux gens ex-UFC, ou UFC AGO, ou UFC de Gilles-Christ Olympio, ou fallait-il peut-être réfléchir que, dans le cadre du FRAC, il y avait un certain nombre d'autres partis, et même en dehors du FRAC, qui auraient pu peut-être aider à tout de suite créer cette grande alliance que j'appellerais moi le grand parti de l'alternance au Togo, immédiatement. La raison pour laquelle nous, au CVU, nous pensons à cela, c'est que les tracasseries administratives que le gouvernement est en train de mettre en place pour justement retarder, voire empêcher la création de l'ANC, pourraient avoir plus de difficultés si ça avait été fait avec un ensemble beaucoup plus grand. Deux, nous avons un autre problème de fond. Nous aimerions bien savoir les règles internes de fonctionnement pour qu'il puisse y avoir des élections libres et transparentes à l'intérieur des partis politiques. Tout confondu d'ailleurs, pas seulement l'ANC maintenant, y compris le RPD d'ailleurs, parce que là aussi ce n'est pas très clair si on choisit les gens de manière démocratique à l'intérieur. Et à partir de là, ça permet d'avoir une influence directe sur la notion de l'armée. Parce que à partir du moment à l'intérieur même des partis, il n'y a pas de démocratie en tant que telle pour choisir les représentants, les postes, etc., et que même des décisions prises dans des congrès, on vient enlever les gens par la suite, c'est quand même la loi du numéro 1, le plus fort, celui qui a le plus d'argent. Écoutez, ça s'appelle tout simplement de la dictature.
Ouais.
Donc, ce sous-système de fonctionnement des partis politiques qu'il faut en fait revoir, au moins du côté de ceux qui veulent parler de démocratie et d'alternance, qui se l'appliquent à eux-mêmes, et dans les stratégies qu'ils veulent mettre en œuvre, alors qu'existe le FRAC, donc des structures déjà plus ou moins avancées dans l'alliance, des formes d'alliance, il suffisait de faire un FRAC élargi, pour parler trivialement, qui aurait permis peut-être de faciliter le travail. Donc, la réponse à votre question, oui, nous avons calculé favorablement. Nous, nous sommes un peu en doute maintenant, puisque on avait pensé que tout allait avancer vite, et maintenant, avec la position d'une forme de dictature administrative de l'administration togolaise, il n'est pas du tout évident que dans 30 jours, ce parti soit ANC, donc soit créé, tel que les fondateurs l'ont prévu.
Oui.
Femme Liberté chez vous, là où vous êtes.
Eh bien, je rappelle aux auditeurs de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine émettant de Chicago, qu'ils écoutent actuellement Parcours, l'émission hebdomadaire de Kodjo Epou. Eh bien, aujourd'hui, notre invité est Dr Yves Ekwe Amaizo, une personnalité africaine connue. Il est le coordinateur international du CVU, il est le président du think tank Afrologie et consultant international en gestion de projets et de business. Docteur Amaizo, de plus en plus de Togolais s'étonnent de l'attitude de Bruxelles dans la crise togolaise. On remarque que non seulement l'Union européenne ne paraît pas stricte sur la destination de ses financements au Togo, elle donne l'impression de fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme, sur l'impunité et sur la léthargie de la justice dont elle finance chèrement la restructuration. À quoi cela peut-il être dû? Cette institution, alors, selon vous, accompagne-t-elle vraiment le peuple togolais dans sa quête du mieux-être, c'est-à-dire dans sa lutte contre la malgouvernance et la corruption, ou voyez-vous que l'Union européenne s'efforce plutôt d'accompagner un pouvoir incompétent afin de cacher son propre échec au Togo?
Bon, c'est une question très complexe. La première chose, le CVU ne fait pas de procès d'intention à quiconque, encore moins à l'Union européenne. Mais il faut préciser les choses. Les règles de fonctionnement de la communauté internationale en général, notamment les bailleurs de fonds bilatéraux, voire même multilatéraux, ont plusieurs fois changé. La règle qui existe aujourd'hui, celle qui nous est appliquée au Togo, est ce qu'on appelle l'approche budgétaire. C'est-à-dire que quand l'argent quitte l'Union européenne, de manière générale, après des accords, des négociations, etc., ça tombe où? Dans les caisses du budget du Togo. Ce qu'on appelle l'approche budgétaire. Parce qu'avant, vous avez des approches par projet. On aurait choisi de faire un hôpital, l'argent venait pour l'hôpital, et bon, vous ne voyez pas le projet. Mmh. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de critiques parce qu'une partie de cet argent retournait aux expertises, aux équipements, pièces détachées et autres occidentaux. Donc, ils sont allés dans l'approche budgétaire qui aurait effectivement, si les gouvernements sont démocratiques, etc., conduit à une vraie souveraineté nationale. Mmh. Alors, maintenant que cet accord budgétaire est là, vous ne devez pas vous étonner que l'argent quitte les dons, des prêts pour venir dans le budget. Donc, tout problème est de savoir comment le budget est alloué maintenant pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous posez. Mmh. Et là, nous avons un vrai problème parce que le budget, même si l'argent vient, ça n'empêche pas des pressions ici et là qui font que, oui, un budget peut venir pour financer les forces militaires en termes d'équipement qui, aujourd'hui, utilisent ces équipements pour taper sur samedi, avant même les mercredis, alors qu'ils allaient prier. Mmh. Alors, est-ce que l'Union européenne ferme les yeux sur la violation des droits de l'homme de manière générale? Je ne pense pas. L'Union européenne a quand même des objectifs qui sont inscrits dans sa constitution depuis longtemps. Ils sont contre la violation des droits de l'homme et des impunités partout dans le monde d'ailleurs. Maintenant, il y a des intérêts qui rentrent en jeu et l'Union européenne, bien qu'on appelle l'Union européenne dans la pratique, il y a quand même certains États dans certains pays qui payent plus que d'autres. Au Togo, en tout cas, c'est la France. Mmh. Donc vous allez voir que l'influence française risque d'être beaucoup plus importante. Maintenant, cette influence française elle-même, compte tenu du mode de fonctionnement de la France au niveau de sa politique étrangère, pour ne pas dire de la coopération, et pour ne pas dire tout simplement au niveau de l'Élysée même directement sur les pays, il y a un gros problème sur l'influence de la France-Afrique. C'est pour ça qu'il faut distinguer entre les deux de manière fondamentale. Et parfois, cette France-Afrique arrive à avoir raison, malgré même les politiques qui sont envoyées depuis la France elle-même au niveau soit de l'Élysée, des affaires étrangères ou de la coopération, soit même au niveau de l'Union européenne. Et donc, influence, quel type de projet, où est-ce que ça doit aller, etc. Ben, maintenant, vous avez un deuxième problème qui est lié à votre question. Des gens sont venus, des observateurs sont venus pour constater, au fond, que les élections se sont mal passées. Ils ont même déclaré qu'ils ne pouvaient même pas dire qui est le responsable ou le premier président après 2010 au Togo, puisqu'il n'y avait pas de correspondance entre les souches des bulletins de vote et les bulletins de vote eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a pu, avant, pendant, après, modifier, inverser, rajouter un certain nombre de bulletins cochés dans tel ou tel sens. Donc de ce point de vue, il n'y avait qu'une seule solution, il fallait tout simplement refaire les élections et l'Union européenne aurait dû donner cette position-là. Mais n'oubliez pas, les consultants observateurs qui sont venus sont des consultants. Ils proposent, mais il y en a qui disposent. Et donc la décision politique a été, écoutez, on continue, on ne peut plus mettre l'argent dans cette histoire, et on a qu'à aller, et puis après tout, cette opposition n'est pas organisée pour faire l'unité. Voici en gros, rapidement, retracé, ce qui, plus ou moins, a permis de déclencher, puisque vous posez la question de comprendre comment ça a pu fonctionner. Mmh. Alors, derrière tout ceci, les déclarations dont je parle ont été officielles, hein, c'était sur la radio, pour la Radio France Internationale, pour ne pas la citer, de l'observateur en chef qui était sur place. Alors, ça pose le problème de savoir. L'Union européenne, qui a des intérêts aussi, quand elle vient au Togo, elle défend quoi? Elle défend d'abord ses propres intérêts et de ses membres. Donc, on revient à la notion de priorité dont j'ai parlé tout à l'heure. La priorité 1, c'est d'abord défendre les intérêts de l'Union européenne. La priorité 2, c'est derrière les intérêts de l'Union européenne, les intérêts des pays membres de l'Union européenne au plan bilatéral. Donc, pour le Togo, c'est essentiellement la France, éventuellement un peu l'Allemagne. Et 3, alors, les droits de l'homme, les droits humains viennent. Non, encore une fois, le peuple togolais vient en priorité 3. Et de ce point de vue, quand le peuple togolais croit qu'il est la priorité 1 de ces gens-là, il se trompe. Et c'est le travail des mouvements citoyens de le faire comprendre. Il ne s'agit pas pour cela d'en vouloir à tel ou tel. Il s'agit de comprendre que si le Togo avait beaucoup de pétrole et devait investir en Europe, le Togo défendrait ses intérêts togolais en Europe. Ensuite, ceux éventuellement de ses populations. Et après, s'il y avait des problèmes de droits humains en Europe, il viendrait s'occuper des problèmes de droits humains. Mmh. Parce qu'on est en politique et dans ce domaine-là, vous savez, ce ne sont que des intérêts qui comptent. Fondamentalement. Donc, je crois que c'est un problème de compréhension qu'il faut avoir. Mais il y a une solution, en tout cas, pour ce qui est des élections. Si jamais, demain, il faut encore que des observateurs de l'Union européenne viennent au Togo, ou plus élargi même des Nations unies, il faudrait, je pense, et on l'a même d'ailleurs proposé à l'époque, qu'on puisse avoir un budget pour les observateurs des observateurs. Oui. Nous avons même une équipe en place. Vous savez qu'on a un conseil mondial de la diaspora togolaise, dirigé par le docteur Abouzou, en France, qui ont mis en place tout un système qui permet de vérifier ce que font les observateurs. Par exemple, vous savez que l'Union africaine et la CDAO avaient des observateurs. Et nous avions pu financer quelques observateurs pour vérifier le travail des observateurs. Et nous avons pu voir que certains observateurs, pour ne pas le citer, Obasanjo, n'est pas sorti beaucoup de son hôtel. Il est allé à Bay, il est allé à tel ou tel, mais il n'est pas sorti à l'intérieur. Donc vous voyez bien que si on les avait observés, nous aurions vu qu'il n'a pas fait plus que 1% des bureaux de vote, mais a déclaré, d'ailleurs avant tout le monde, que les élections s'étaient très bien déroulées et voici le vainqueur.
Ouais.
Donc comment voulez-vous, après avoir visité 1% des bulletins des urnes, des espaces de vote, décider que tout s'est bien passé compte tenu de tout le travail et difficultés que nous avons connue jusqu'à la décision unilatérale pratiquement imposée à la Cour constitutionnelle. Donc vous voyez bien que ce problème de contrôle ou d'observation des observateurs devient très important. Et nous suggérons que ça se fasse par la diaspora togolaise qui, au fond, a un grand intérêt que les choses se passent bien, n'a pas besoin de rester longtemps. Vous savez, ça dure 3-4 semaines, ces élections, donc avant, pendant et après. Et ils font un travail, ils donnent un rapport, et sur ce plan-là, ces rapports sont confrontés avec ceux de l'Union européenne, des Nations unies et autres, et le consensus devient applicable à l'ensemble des gens.
Voilà. Et une autre question qui est un peu liée à la précédente, les experts de la Banque mondiale avouent souvent, lorsqu'ils sont en privé, que le Togo est mal gouverné, victime de la corruption tous azimuts. Eh bien, le pays est en bonne place au rang des pays les plus corrompus de la Terre. Mais les mêmes de Bretton Woods continuent de faire pleuvoir des milliards sur Lomé. Comment le spécialiste de ce genre de questions que vous êtes explique-t-il ce phénomène de duplicité?
Bon, vous savez, il n'y a pas une très grande différence entre le bailleur de fonds X et le bailleur de fonds Y. Là, vous rentrez dans la communauté internationale au sens large, Banque mondiale, Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods. Vous avez dit que c'était en privé. Moi, je vous confirme qu'il s'agit des représentants officiels de la Banque mondiale. Donc, c'est complètement officiel quand ils ont dit que le Togo est mal gouverné. Il n'y a rien de caché. Ce n'est ni en privé, ni en secret. Et d'ailleurs, nous, au CVU, on a même rappelé à la Banque mondiale qu'ils ont oublié un certain nombre de choses. Et je vous enverrai d'ailleurs les références que vous pourrez donc voir quelles sont les épreuves qui ont été oubliées. Mais il faut savoir qu'une grande partie des budgets de ces bailleurs de fonds soutiennent le budget togolais. Il faudrait refaire le calcul, mais sincèrement, c'est pratiquement assez facilement autour de 60%, sinon plus. Il faudra voilà, vérifier sur le terrain, dans le nouveau budget, quelle est cette part-là, si le budget est transparent. Parce qu'il y a plusieurs façons de présenter un budget qui fait qu'on peut très bien vous dire tout et son contraire. Alors, si vous dites qu'il faut stopper, entre guillemets, ce que vous appelez des milliards vers le Togo, si vous regardez bien, en termes de pourcentage, ce n'est pas grand-chose hein, ce que reçoit le Togo. Hein, ce sont plutôt des budgets qui permettent des fonctionnements des pays. Vous allez vous apercevoir que beaucoup de ces budgets permettent le fonctionnement de l'administration elle-même. Donc, vous êtes en train de dire indirectement que si on stoppait ces financements-là, ben, les fonctionnaires ne sont pas payés. Les projets d'infrastructures sociaux ne sont pas payés, surtout que ces institutions, pendant des années, dans le cadre du programme d'ajustement structurel, ont tout fait pour empêcher, stopper les programmes d'infrastructures sociaux et surtout l'industrie, la capacité productive et l'industrialisation. Quand ils ont vu maintenant l'erreur profonde, peut-être que ça a été fait exprès, il va falloir encore discuter et étudier cela, mais en tout cas, quand ils l'ont vu, il y a eu un changement profond. Et donc tout le monde saute sur la pauvreté, mais qu'on fond. Mais il s'agit de créer de la richesse. Parce qu'on n'a jamais entendu quelqu'un devenir riche dire qu'il est pauvre. Donc quand on nous rappelle qu'il faut réduire la pauvreté, c'est gentil. Mais on ne crée pas les éléments de création de la richesse, qui sont les capacités productives du pays. Au contraire, nous faisons nos privatisations, nous le donnons à l'extérieur, alors qu'on peut les gérer, d'abord même ils rapportent beaucoup. Et surtout, tout le système de la transaction, c'est-à-dire la façon dont les choses circulent dans le pays, qui devrait quand même appartenir aux populations locales. Et là encore, vous constaterez très très souvent que ça part vers l'extérieur. Je ne veux même pas parler du sable qui est traité par une population qui vient du côté asiatique. Donc tous ces éléments-là, si on veut les discuter, les banques mondiales, les FMI ne sont pas du tout ignorants de ces genres de choses. Mais eux, ils ont une préoccupation, encore une fois, en priorité. La première des priorités de ces institutions, qui sont des organisations financières et voire des banques, quel que soit le nom qu'on leur donne, fonds ou banques, c'est que le pays ou les pays à qui ils ont fait un prêt ou un don, en tout cas surtout le prêt, remboursent. Du coup, quand vous avez de l'argent, de la fiscalité qui rentre dans les comptes de l'État togolais, la première priorité pour la Banque mondiale, c'est simplement qu'elle soit remboursée. Donc, la deuxième priorité, c'est évidemment, pour ne pas avoir d'histoire, on ne met pas trop les pieds dans les affaires internes, donc la vérité des comptes, elle reste incomplète. Comptes publics, elle reste incomplète. La vérité des comptes publics reste incomplète. Et la troisième, alors la population togolaise arrive encore en troisième priorité. Donc vous voyez comment, chaque fois que vous posez votre question, au fond, vous voyez la priorité qui est donnée au peuple togolais. Alors, je vais aller plus loin. Et c'est ça la question que vous posez. Vous savez que dans le cas des institutions de Bretton Woods, il est question de ce qu'on appelle la dette des pays pauvres très endettés, le PPTE. Il est question d'identifier un certain nombre de dettes. Pour la plupart, et pour ne pas dire la grande majorité de cette dette, est due au taux d'intérêt injuste qui est appliqué aux pays pauvres. Pour faire court, quand vous empruntez 100, sincèrement, vous remboursez dans les 10 000 à plus. C'est-à-dire que le taux d'intérêt, en quelques années, est exponentiel et fait que, sincèrement, ce que vous avez à rembourser, même si vous remboursez vos 100, 200, 300, 500, il y aura toujours une différence. Et il y a eu des études qui ont été faites, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Le Nigeria a tellement été fâché avec ça, à tel point que même des gens comme Samir Amin ou d'autres parlent de dettes iniques. Alors, à l'intérieur de cela, vous avez aussi des dettes qui sont des dettes liées aux privés, aux activités privées des gens de l'État. Bon, pourquoi le peuple togolais doit payer pour cette dette-là? Alors, dans le cadre du programme de réduction de la dette, il est question que, bon, on fasse une sorte d'amalgame, là, on met tout dedans, et on réduit une fois pour toutes ces dettes-là, pour redonner une capacité d'endettement à nos pays. Ce qui est une bonne chose sur le principe, sauf que l'État togolais, le sachant, nous avons constaté qu'un certain nombre de dettes non justifiées, comme par exemple le défilé militaire, vont certainement se retrouver dans le package. Et nous avons attiré l'attention aux gens qui disent qu'ils veulent enlever la dette, que, écoutez, je veux bien qu'on enlève la dette des gens qui vont à l'hôpital, qui ne peuvent pas payer pour leurs médicaments. Mais je ne comprends pas pourquoi on doit enlever la dette qui consiste à avoir acheté une voiture de luxe dont le prix sur le catalogue est tellement de zéro derrière qu'on ne peut pas prononcer le chiffre. Donc voilà que ce problème posé fait que nous sommes obligés aussi de mettre en cause le conseil qui a été donné par les institutions de Bretton Woods aux pays pauvres les moins avancés, le Togo en particulier. Parce que ce sont des problèmes de stratégie, et pourquoi, s'ils se sont trompés aussi dans les stratégies, il faut qu'ils payent, comme tout le monde. Et donc, il faudrait peut-être leur demander, d'abord de nous associer, les gens qui peuvent, dans ce domaine, apporter quelque chose, en tout cas donner un esprit contradictoire, public, c'est-à-dire que les gens sachent quelle est la position d'une diaspora sur tel ou tel dossier avec la Banque mondiale. Et la deuxième chose, que bon, s'il y a eu une erreur, ben, qu'on reconnaît cette erreur-là, après tout l'erreur est humaine, mais qu'on la répare ensemble. Et là, je crois que la Banque mondiale s'est contentée de dire que le Togo est mal gouverné, sans rappeler ses propres erreurs, sans rappeler pourquoi ces erreurs ont plus ou moins tolérées, pour ne pas dire on a fermé les yeux. Et surtout, il y a une totale impunité. Donc vous voyez, l'impunité qu'on trouvait dans le domaine des droits humains, on est en train de le retrouver dans le droit économique ou dans l'économie pure.
Ouais.
Et c'est un problème vraiment de fond.
Et lorsqu'on regarde ce tableau-là, il est bien loin d'être reluisant, hein, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Alors, maintenant, les propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Citez-nous, Dr. Amaizo, par ordre d'importance, au moins 5 choses essentielles à faire pour normaliser le Togo économiquement et politiquement.
Alors, bon, vous aimez vraiment amener une sortie de crise. Vous avez entièrement raison. Mais 5 ou 6 ou 10, nous, on en a 22 au collectif sur la vérité des urnes. Et je vous inviterai simplement, en vous envoyant cette liste de 22 points, à les lire. Mais vous savez, ce ne sont pas 1, 2, 3 points qui est important aujourd'hui pour le Togo.
Oui.
Il y a eu des élections usurpées, 2 fois, 2005-2010. Il y a un manque de confiance totale entre les acteurs décisionnels au plan politique. Nous ne sommes pas dans une configuration réelle de gouvernement d'union nationale en tant que telle, parce que les positions sont figées, et personne ne veut s'asseoir pour réfléchir. Donc la seule solution que moi je vois aujourd'hui, et que certainement le CVU et bien d'autres, c'est la transition. Il faut une période de transition. On l'avait dit d'ailleurs depuis très longtemps, pour normaliser. Mais la normalisation ne se fait pas en l'air, elle se fait de manière éthique. Mmh. Elle se fait de manière transparente. Les journalistes doivent être présents pour écouter ce que disent les uns et les autres. Et doivent être fondés sur la vérité des urnes. Puisque celle du passé, on va l'oublier, on va aller vers celle du futur. Donc il faut une période tampon, qu'on appelle période de transition. La période, quoi, 12 mois, 18 mois, pas plus. On ne peut pas faire 6 mois, regardez ce qui se passe en Guinée, ça ne marche pas les 6 mois. Il faut 12 mois, 18 mois. Pour une raison tout simple, il faut refaire la liste électorale par exemple, ça prend 12 mois. C'est comme si vous faisiez un recensement d'une population indirectement, sans compter toute la population de la diaspora n'a pas été comptée. Donc il nous faut pouvoir retrouver les bases de la confiance entre le peuple togolais lui-même et entre le peuple togolais et ses dirigeants, quels qu'ils soient, ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans les parties d'alternance. Donc, moi, je ne pourrais pas cinq, j'en pourrais qu'une seule. C'est celle-là, c'est-à-dire que nous sommes dans les carrefours stratégiques pour le peuple togolais. Il y a ceux qui peuvent choisir la voie pacifique que je vous propose, il y a ceux qui vont vouloir, encore une fois, remettre en place un système dans lequel on attire des gens. Je vous ai parlé d'aspirateurs au départ. On va aspirer des individus ici et là. Ils vont venir jusqu'au moment où eux aussi ils ont des problèmes. Et hop, ils vont quitter pour redevenir des opposants, comme on a l'habitude régulièrement d'entendre. Ce sont, au fond, beaucoup d'opportunisme et, je crois, surtout un manque d'analyse profonde sur le plan stratégique d'un pays. Étant spécialiste des problèmes stratégiques, je ne pouvais qu'appliquer mes propres recettes au Togo. Et donc, voilà la solution. Il faut une redynamisation par des propositions de transition. Encore faut-il que chacun, d'abord, soit conscient, soit d'accord. Et je pose même une deuxième condition. Ceux qui viendront faire cette transition-là n'ont pas pour objet de rester, sauf exception, mais fondamentalement, c'est que vraiment pour remettre la clarté dans les positionnements. Que vaut aujourd'hui le parti de l'UFC? On ne sait pas. Que vaut le parti de l'Obut? On ne sait pas. Que vaut même le parti du RPT au Togo? On ne sait pas. On ne sait pas depuis 2008, on ne savait même pas avant, ou plutôt, tout le monde sait. Mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Donc il faut retrouver les bases de cette preuve-là. Et je pense que plutôt que de parler de 5, non, les 22 mêmes propositions, ce n'est qu'une seule. C'est celle, je vous dis, d'aller vers une plateforme d'éléments à mettre en place pour permettre cette transition de se dessiner petit à petit, et puis à ce moment-là, que chacun puisse y participer. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'opposer quoi que ce soit, il s'agit d'accepter des nouvelles règles, comme vient de le faire la Côte d'Ivoire d'ailleurs en parenthèse, pour permettre des élections de se tenir dans des conditions absolument transparentes, surtout les militaires restent dans leur caserne, et qu'en plus de cela, les populations assistent à l'ensemble des dépouillements des bulletins de vote, et que ça se passe de manière manuelle. Parce que vous voyez bien que le vote en Côte d'Ivoire a déjà été fait au niveau informatique. Rien n'a filtré, alors qu'ils sont en train de tout recompter au niveau manuel, et dans les trois jours, nous devons avoir un résultat. D'abord, ceux du manuel, puisque ça, on peut, si on n'est pas d'accord, retourner dans le bureau de vote, redemander à ceux qui étaient présents d'attester que voilà ce qui a été dit, compté, etc. Et on ne peut pas assister, comme on a vu au Togo, des militaires venir ou des gens du pouvoir, préfets ou autres, venir vous dire, écoutez, vous allez inverser les résultats contre 40 000 francs CFA. Et quand vous avez mis 2-3 fois cet argent dans votre essence, dans votre mobilette, et écoutez, en moins d'un mois, les 40 000 francs ont été mangés, et voilà où le Togo est aujourd'hui. J'en veux au fond à l'ensemble des acteurs qui ont précipité les accords et les dialogues de Ouaga, de ne pas aller en profondeur sur le plan stratégique de ce qu'ils voulaient, et ayant cru faussement que la loi du nombre allait permettre une victoire massive écrasante. C'est presque comme si on avait répété 2 ou 3 fois les mêmes erreurs, puisque c'est souvent de ce point de vue que ces choses sont arrivées.
Oui. Et je retiens, nous retenons, et les auditeurs de FM Liberté retiennent que le Togo a besoin d'une transition pour passer du système actuel à un système neuf. Et parce que dans la vie courante, on ne peut pas continuer à bâtir une situation neuve au bout de vieux problèmes. Vous avez raison, Dr. Amaïzo, le Togo a besoin d'une transition. Beaucoup de gens le disent d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps, un grand Africain de la FIDH, très connu, disait également que, sincèrement, le Togo a besoin d'une transition pour se départir de ces vieux problèmes. Eh bien, nous allons quitter légèrement le Togo. Là, on va en Guinée. Vous savez, la structure névralgique dans la transformation d'un pays par le biais d'élections crédibles, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Dans beaucoup de pays, cette institution est impartiale et des fois, l'endroit où commencent même les tensions post-électorales, très souvent meurtrières. La Guinée-Conakry vient d'innover en acceptant un général malien, Siaka Toumani Sangaré, pour présider sa CNI. Ce général est assisté dans sa tâche par 2 vice-présidents, un proche du candidat Diallo et l'autre proche du candidat Condé. Les pays africains où les élections sont récurremment litigieuses, où les commissions sont partiales, doivent-ils aller à l'école guinéenne en la matière?
La réponse est non. Mais je vais détailler. Il est vrai que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est incontournable. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. J'insiste beaucoup dessus. Ce n'est pas ce qui est un peu important. Ce qui est important, c'est l'environnement de l'espace de confiance qui a été créé avant, pendant, après. Vous avez vu comment ça a pris beaucoup de temps en Côte d'Ivoire. Vous avez vu combien de fois on n'a pas insulté le président Gbagbo, qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas, il ne voulait pas. Aujourd'hui, qui est en train de le féliciter pour avoir accepté lui-même d'être peut-être mis en ballotage et peut-être même ne pas être là? Qui, dans les pays africains, à commencer par le Togo, peut accepter ce genre de courage politique? Les gens oublient d'ailleurs l'histoire du président Gbagbo. C'était quelqu'un qui était à l'université, un professeur d'histoire, et qui, du coup, a été habitué à être élu pour être président de ceci, président de cela, dans les collèges de professeurs. Donc, vous voyez, c'est quand même une culture. Donc, c'est cette culture de démocratie, culture d'élection représentative qu'il va falloir remettre en place. Et c'est pour ça que la période de transition, elle est d'abord fondamentale. Ça, c'est le premier point que je dirais sur votre question sur la Guinée. La deuxième chose qui pose un vrai problème, c'est qu'en Guinée, plus spécifiquement, voici un pays qui a subi, mais alors, en profondeur, tous les paradoxes du parti unique, jusqu'aux assassinats, et systématiquement bloqué par un système militaire. Et des militaires qui, en plus, ne sont pas éclairés. Ce qui fait que la situation guinéenne, sincèrement, sur le plan de l'infrastructure ou autre, n'est pas très différente de celle du Togo. Alors, que faut-il faire? Mais c'est vrai que la CENI peut aider. Mais quand, dans le fondement de la réflexion, il était question pour une démocratie nouvelle en Guinée, de mettre dans les casernes des militaires et d'apporter des civils au pouvoir, il est quand même un comble, pour ne pas dire un paradoxe, que ce soit un militaire de l'extérieur, Mali, qui vienne à la tête d'une structure censée représenter une démocratie représentative. Alors, ça pose deux problèmes, que, bien sûr, les acteurs locaux, partis politiques, vous avez cité les deux, hein, Diallo et Condé, ne sont pas à même de se mettre d'accord pour trouver le consensus sur tel ou tel nom, ce qui veut dire que le système de vote ne fonctionne pas, et sincèrement, la notion d'ethnicité a dû prendre le dessus. Mais vous savez que les régions de Guinée, Sénégal, jusqu'au Mali, si vous fouillez bien même le militaire général que vous venez de citer, Sangaré, je ne voulais pas citer, mais sur le plan ethnique, il a des relations assez importantes en Guinée. Donc vous voyez bien que ce n'est pas que le problème ethnique, parce que si on voulait chercher, on ne l'aurait pas choisi. Bon, on a autre chose qui ne va pas dans le système africain, c'est que nous n'avons, je pense pour le cas guinéen, pas suffisamment de profondeur, et je pense qu'il y a des interférences étrangères qui viennent gêner le jeu. Je suis même assez précis pour la Guinée, parce que le premier tour est un premier tour où les résultats non seulement étaient inexacts, mais en plus, à la différence du Togo, il y a eu la possibilité de procéder à des observations, des contre-expertises, et de ce point de vue, il est apparu qu'il y a eu beaucoup de fraudes, avec des preuves, à tel point que le président, l'ex-président de la CENI avait même été mis en cause et condamné. Malheureusement, pour des histoires dites de santé, il est monté à Paris, d'où il est revenu mort. On peut se poser la question, pourquoi chaque fois que le facilitateur du Burkina Faso rentre dans nos histoires, il y a quand même des morts? Ce sont des problèmes. Voilà pourquoi le CVU, d'ailleurs, avait proposé pour cette nouvelle donne de transition ou autre, qu'on change de facilitateur, de médiateur, qu'on aille chercher quelqu'un d'autre. Et pour être concret, nous avons même proposé le Mali. Puisque dans quelques années, le président malien est un des rares à avoir accepté de ne pas changer la constitution, encore moins de rester au pouvoir, et plus de revenir aux activités qu'il faisait pour soutenir. Et son expérience pour créer des dispensaires dans beaucoup de villages maliens ne peut être que très bénéfique au Togo, en dehors même du problème des élections. Donc voici le deuxième élément, c'est-à-dire qu'on a bien besoin de cette CENI, mais il faut bien faire attention que ce n'est pas en allant chercher à l'extérieur qu'on trouve une solution au problème. D'ailleurs, c'est typiquement d'ailleurs africain, parce que nous croyons toujours que quand il y a un problème en interne, c'est à l'extérieur qu'on trouve une solution. Il faut enlever ça de la tête. Vous savez, quand on dit qu'on lave le linge sale en famille, ce n'est pas pour rien. La solution doit se trouver en interne. Par contre, il faut mettre des règles de fonctionnement qui permettent que les uns et les autres puissent s'exprimer Et quand on n'arrive pas à trouver un accord, alors qu'on puisse passer de manière la plus pacifique et démocratique possible à un processus de vote avec une majorité. Et là, pour une raison X, Y, Z, il faut accepter la décision qui va sortir à ce moment-là, que ce soit dans une famille ou que ce soit à l'extérieur. Après tout, un divorce dans une famille, ce n'est que ça. Il y a eu une difficulté à trouver une entente et puis bon, les choses se sont bloquées à ce moment-là et chacun prend sa route. Je ne vois pas pourquoi ce soit différent pour des partis politiques. Alors, ce qui est un peu gênant dans cette histoire, c'est que ce soit un militaire qui vient à la tête d'une organisation démocratique, tennis, et qui, en fait, ce que personne n'a dit, en tout cas, je n'ai pas entendu, n'est qu'un élément de la structuration de la hiérarchie militaire. Vous croyez que ce général, même malien, ne va pas exécuter les ordres du président militaire, en guillemets, aujourd'hui? C'est vous tromper. Les règles des militaires sont très précises. Ils le disent eux-mêmes, nous sommes des militaires, donc nous respectons la hiérarchie. Donc vous voyez bien que nous avons quitté en fait déjà la démocratie pour aller dans l'ordre. Et je vous assure que si les choses ne se passent pas comme il faut, comme d'ailleurs il avait déjà menacé, le président actuel de la Guinée, le militaire, va décider de manière pratiquement unilatérale qui il voudrait bien mettre là-bas. Ce qui pourrait poser un problème en termes de juger parti pour ce qui est du général Sangaré Malien.
Oui, le constat qu'on fait là-bas en Guinée, c'est que il n'est pas facile de passer d'une dictature implacable à la démocratie. Mais on croise les doigts en tant qu'Africains pour que les choses se passent de façon cohérente, claire, limpide et normale en Guinée. À côté de la Guinée, la Côte d'Ivoire, où se tient actuellement une élection présidentielle. Et hier nuit, on a appris qu'on va vers un deuxième tour. Et qui contre qui, on ne le sait pas totalement encore. Et on a l'impression que la communauté internationale est un peu trop mobilisée pour la Côte d'Ivoire. À quoi cela est dû? Et pourquoi pas la même chose au Togo, par exemple?
Bon, là, on rentre dans les domaines des intérêts. Vous savez, il faut d'abord dire la vérité. La Côte d'Ivoire est de loin beaucoup plus importante. C'est le poumon économique de la sous-région, en tout cas pour la zone francophone. C'est elle qui a pratiquement attiré vers le haut tous les gens autour. Vous savez qu'il y a une trentaine, quarantaine d'années, la plupart de nos instituteurs allaient là-bas, faisaient un peu d'argent, revenaient. Encore aujourd'hui, vous allez dans ce qu'ils appellent là-bas la locodrome, où vous allez manger une sorte de marché ouvert où restauration, on parle pratiquement Mina là-bas, donc beaucoup de Togolais trouvent leur bonheur là-bas. Ce que je veux simplement dire à travers cela, c'est que c'est un grand pays dans lequel pour la première fois, un président, Babou, a réussi ou osé mettre en cause l'hégémonie française, parce qu'il s'agit bien de cela. Seulement, cette hégémonie française est divisée entre la France en tant qu'État et bien sûr la France-Afrique encore une fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les capacités productives qui rapportent de l'argent peuvent être confiées à des structures économiques françaises, les choses allaient de soi. Maintenant, la concurrence, la compétition internationale, notamment celle venant d'Asie, on parle toujours de la Chine, mais il n'y a pas que la Chine, il y a plein de petits pays de la Chine qui fonctionnent relativement bien, la Thaïlande, le Vietnam et bien d'autres, la Corée, l'Inde qui viennent, le Brésil aussi, pour parler de l'Amérique latine, qui sont en train d'offrir des services, des activités beaucoup, beaucoup plus compétitives que ce que faisaient ou font un certain nombre de pays connus comme étant anciennement de l'Europe et particulièrement de la France. Et donc, les changements en termes décisionnels se font, où on préfère aller donner à faire un pont à un Chinois pour un montant qui permet d'en faire 10, que de le donner à une société, une ancienne colonie, qui permet d'en faire un seul, sans compter les difficultés de maintenant. Alors, à partir de ce problème-là, je pense que le président Gbagbo a dû mélanger la notion de la France et de la France-Afrique, et compte tenu des gens qui le soutiennent, la population aussi, parce qu'il a beaucoup de soutien de sa population, qui s'était quand même battue à main nue contre l'armée française, vraiment, a dû verser dans, disons, je jette tout et le bébé, et c'est qui a créé cette difficulté profonde jusqu'à la guerre. Cette guerre étant en passe de se terminer complètement, on commence à voir maintenant clairement qu'il y a une distinction entre les agents économiques, occidentaux, qui, eux, bon, à partir du moment où leurs intérêts sont préservés, on leur donne ceci, le port, par exemple, ou d'autres, bon, se taisent et adviennent ce qu'il advienne. Donc, ils sont pratiquement prêts à laisser le système fonctionner, parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Le Togo n'est pas exempt de ça, vous savez ce qui se passe au port du Togo. Alors, la deuxième chose qui est liée à cela aussi, c'est que la compétition des Chinois ou des Asiatiques en général, qui était partie très très vite, tend à se ralentir, et les chefs d'État, en général, font attention d'essayer de trouver une sorte d'équilibre entre la répartition de ce qui peut se faire à gauche ou à droite. L'ensemble de ces deux choses ont donné le résultat, je pense, de la Côte d'Ivoire, à que un professeur, le professeur Bagbou, a compris qu'il fallait laisser le temps au temps. Et donc, quel que soit ce qui a pu se faire, et quel que soit ce qui a été dit d'aller dans l'urgence, on s'en rappelle encore des paroles du facilitateur, d'aller dans l'urgence, qu'il a refusé de mettre en œuvre. On a pensé à l'époque où on voulait absolument le remplacer par son actuel Premier ministre. Toutes ces choses-là, il a pu, je pense, y résister et permettre tout simplement que le peuple s'exprime. Et je dirais que dans le cas de la Côte d'Ivoire, contrairement au cas qu'on a cité ensemble tout à l'heure, ben voilà quelqu'un, je pense, qui a dit, mais écoutez, moi je suis là pour ce peuple-là, et je mets le peuple en priorité une.
Ouais.
Et en le mettant en priorité une, à l'africaine, il a donné le temps au temps, a laissé vérifier tout pour chaque fois il y ait des consensus, sur lequel le facilitateur Burkinabé est venu s'asseoir en disant que tout est bien fait, mais l'essentiel a été fait en famille. Vous savez, ce sont des accords internes entre Ouattara et Bédié et puis Gbagbo lui-même.
Oui.
Et ensuite, les tampons se faisaient uniquement de temps en temps d'ailleurs au niveau du Burkina, qui n'est pas neutre d'ailleurs dans l'organisation de la guerre dans ce pays, il faut dire aussi quelques vérités. Donc, vous voyez bien que si les Togolais doivent prendre exemple sur la Côte d'Ivoire, le premier exemple, c'est de régler le problème en famille. Et ça peut se faire si le canevas de travail, la feuille de route, est transparente, mise sur pied par des experts, et non pas par des gens parfelus, pour dire ce qu'il y a aussi. Il ne faut pas faire des choses n'importe comment. Qui soient faites de manière structurée, mises à disposition de l'ensemble des médias, y compris FM Liberté, qui apporte ses commentaires, sa valeur ajoutée, ses changements si nécessaires, et on retrouve un consensus encore une fois, et à partir de là, on peut éventuellement évoluer vers quelque chose sur lequel, malgré tout, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est un exemple de consensus général en Côte d'Ivoire. On le voit d'ailleurs par le taux de participation qui atteint pratiquement les 80%.
Oui. Eh bien, vous écoutez FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Aujourd'hui, nous recevons, dans le cadre de parcours, Dr Amaïzo, depuis Vienne, en Autriche. Eh bien, nous nous acheminons vers la fin de cette édition de parcours. Mais une dernière chose qui concerne la diaspora togolaise, et cette diaspora semble se limiter, à mon avis, à un rôle humanitaire de transfert d'argent vers le pays pour aider les parents. Mais lorsqu'on sonde un peu les assistés, c'est-à-dire ces parents-là, les gens du pays donc, ceux-ci préfèrent voir cette diaspora jouer le rôle moteur du changement politique. Ce qui revient à dire, c'est mieux de nous aider à vivre de notre propre pêche que de nous offrir souvent du poisson. Votre commentaire en guise de conclusion à cette émission, eh bien votre commentaire, Dr Amaïzo, sur ce point de vue.
Alors, bien sûr que nous sommes entièrement d'accord sur le fait qu'il vaut mieux pêcher et soutenir ceux qui pêchent, c'est-à-dire leur acheter des bateaux, des filets, la structure de distribution d'organisation, séchage, fumage, les ventes, ça crée des emplois chez les jeunes, chez les femmes, etc. C'est-à-dire comment augmenter la productivité dans tel ou tel secteur. Là, vous avez parlé poisson, mais c'est valable pour n'importe quel secteur. Quand on prend café, cacao, quand on prend l'igname, le gari, le manioc, tout ça, c'est que la chaîne de valeur puisse être mise en place. C'est une compréhension de comment on crée la richesse, c'est ce que je disais depuis le début.
Oui.
Et ça, excusez-moi, mais ce n'est pas encore compris par beaucoup de gens qui occupent des postes qui sont censés, ministériels, qui sont censés générer des revenus supplémentaires de richesse au Togo. Les gens comprennent encore que le poste ministériel, c'est fait pour distribuer. D'où tout le problème. Alors, en quoi la diaspora peut modifier? Je vous rappelle qu'en 2008, la diaspora togolaise, l'ensemble de la diaspora togolaise a envoyé 284 millions de dollars. Donc aujourd'hui, les projections sont autour de 310 millions pour 2009-2010. Bon, ce n'est pas un petit quelque chose. Quand vous faites un petit calcul, quelqu'un de la diaspora togolaise envoie entre 30 et 45% de son budget personnel vers le pays.
Oui.
Donc on ne peut pas dire qu'ils ne savent rien, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé, on ne peut pas dire qu'ils ne soutiennent pas. Par contre, vous avez raison, cet argent va où ? quel est le problème? Le problème est que on va applaudir à demain, pas du tout. Si vous comparez avec le Bénin, voire le Ghana, vous allez voir que les transferts de la diaspora ont diminué chez les voisins. Alors les gens disent, mais ces gens-là n'en voient pas. Pas du tout. Ces gens-là ont décidé de rentrer. C'est ce que vous venez en train de dire.
Ouais.
Parce que pour aider aussi à pêcher, mais c'est encore mieux si je suis à côté avec l'argent et que j'achète le moteur du bateau que moi-même je vais à la pêche, parce que je sais comment on fait pour pêcher encore plus. Puisque j'ai été formé pour faire de la productivité plus facilement. Donc, la première chose, c'était ça. La deuxième chose qui est liée à ce que je vous dis, c'est vrai que tant qu'on ne va pas donner le droit de vote à cette diaspora togolaise-là, d'ailleurs, qui est mal compris par le gouvernement, qui dit que, d'après ce que nous avons entendu, ces gens-là ne payent pas des impôts, donc ils ne nous servent en fait à rien. Au contraire, ils vont venir nous déranger dans nos élections, occuper un certain nombre de postes, etc. Laissez-les là où ils sont. Si sinon, s'ils veulent venir, alors qu'ils viennent, et je reviens à mon image de l'aspirateur, on va les aspirer dans le RPT ou dans les structures, etc., etc., comme vous connaissez, et beaucoup sont tombés dans le dedans.
Ouais.
Mais beaucoup aussi viennent pour faire du vrai travail d'investissement, de partenariat, des entreprises. Je vous garantis que beaucoup sont repartis. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un vient de perdre pratiquement, je ne veux pas dire les chiffres, mais quelque chose qui coûte 380 000 euros pour avoir voulu investir, et on lui a raconté des histoires, des tracasseries administratives, et voilà, le gars est rentré, en ayant perdu d'ailleurs toute sa crédibilité avec les partenaires internationaux avec lesquels il voulait venir.
Ouais.
Donc vous voyez, c'est donc l'environnement des affaires qui n'est pas propice et qui en fait ne permet pas le retour de la confiance, et qui empêche d'ailleurs les grandes réunions de se faire au Togo, la mise en place d'un certain nombre de choses. Donc il faut retrouver la liaison entre la diaspora togolaise et puis sa population, et cette liaison doit obligatoirement se focaliser sur une seule chose, le développement des capacités productives et de la productivité.
Je vais expliquer.
Quand vous dites à quelqu'un des États-Unis où vous êtes à Chicago de venir faire des pommes de terre au Togo, il ne s'agit pas qu'il vienne faire des pommes de terre avec la pomme de terre des États-Unis.
Non.
Il va le faire avec l'igname, avec le manioc, avec les produits locaux. Mais il aura besoin de l'équipement en question. Il va lui faire gagner un temps fou, va lui faire économiser de l'huile, va empêcher que l'huile rentre dans l'igname, ce qui évite des cholestérols ou des maladies à 40 ans, 50 ans.
Mmh.
Voilà. C'est cette capacité productive, cette technologie, ce savoir-faire, tout ça là, qu'on souhaiterait. Mais voilà, vous avez un gouvernement, si vous regardez bien comment la structure de la fiscalité togolaise est organisée, ce gouvernement taxe tout ce qui est importation de valeur ajoutée, tout ce qui est importation d'équipements qui permet de créer de la richesse au Togo. Comment voulez-vous alors que cette diaspora continue à faire des efforts? Et si vous voulez le faire, vous devez passer par des amis, des connaissances. Ce n'est plus du tout un système qui est transparent. Ce n'est plus un système qui permet la prévisibilité d'un investissement. Donc, c'est un problème d'ensemble, ce n'est pas juste un problème tout seul. Donc, les gens disent il faut rentrer. Combien de gens ne sont pas rentrés et qui aujourd'hui sont au chômage, ne travaillent pas, en ayant perdu leur contact aussi à l'international? Vous savez qu'il y a des problèmes de carte de séjour. Quand vous partez, la durée que vous n'avez pas terminée, même si vous avez fait pratiquement 9 ans et demi, les 6 mois qui vous manquent vont faire que vous avez perdu toute possibilité de récupérer une double nationalité, par exemple.
Ouais.
Donc voici un certain nombre de problèmes que rencontre la diaspora et qu'il va falloir changer. Donc, vous savez, il y a un Conseil mondial de la diaspora togolaise qui est en place et nous invitons beaucoup de gens à soutenir ce mouvement-là. Mais en même temps, il est plus important encore qu'il y ait une prise de conscience au niveau du gouvernement de manière indépendante, qui donne une fonction à cette diaspora, et ne pas chercher encore une fois à transformer cette diaspora en une diaspora RPT. C'est une diaspora pour l'ensemble des besoins et du soutien à la création de richesses des populations togolaises, qu'elles soient à l'extérieur, de toute façon elles reviennent de temps en temps, et qu'elles puissent soutenir, comme vous avez dit, des gens locaux, à ne pas faire que du poisson qu'ils vont pêcher tous les jours avec un seul fil, mais chercher des filets. Vous savez par exemple que personne n'a pensé par exemple qu'on pouvait faire une grande relation avec la Norvège, hein, ou avec la Finlande, qui sont très très forts dans ces domaines, qui jettent les filets, il suffit d'aller les chercher. Le bateau, d'occasion. Vous savez, m'étonner ce qu'on peut trouver sur les fleuves ici, entre le Danube, jusque dans les pays de la Russie. Il suffit de les remobiliser avec un petit travail de révision, c'est parti. Mais bon, qui peut faire ça? C'est-à-dire que cette conception de la création de la richesse, je reviens dessus, je crois sincèrement que c'est ce qui a manqué au Togo. D'abord, bien sûr, au niveau des gens qui sont au gouvernement, qui sont partis sur une politique de gouvernance de redistribution. Donc, regardez tout ce qui a été dit pendant la campagne électorale du côté du RPT. Je vais vous distribuer ceci, je vais vous distribuer du riz, C'est de la distribution. On n'a pas dit comment vous allez faire pour créer du riz planté, s'assurer que vous avez des engrais et que demain matin vous vous en sortez. Ouais. On fait l'erreur aussi de dire vous ne payez pas de taxes. C'est très mauvais. Il vaut mieux payer des taxes. Il faut dire aux Togolais que paysan qu'il faut qu'il paye une taxe. Maudite, mais il faut qu'il paye, parce que c'est la taxe qui lui permet de donner des ordres à son préfet. Si le préfet ne fait pas bien les choses, il peut dire au préfet, mais j'ai payé des taxes, je n'ai pas vu la route. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Surtout, on va chercher un autre préfet. Ça n'a rien à voir avec Nord-Sud, ça n'a rien à voir homme-femme, ça n'a rien à voir avec tu es bon ou tu es pas bon, ça n'a rien à voir tu es RPT, tu n'es pas RPT. Un préfet qui fait ça, quelle que soit la couleur de son parti, il sera chassé par les paysans qui veulent leur route. Je reviens et je conclue là-dessus. Le Togo a besoin de simplifier son mode de fonctionnement sur le plan politique et de comprendre que quelle que soit la diversité dynamique des partis politiques au Togo, il n'y en a que deux. Il y a les partis de la vérité des urnes et il y a les partis qui ont choisi autre chose que nous appelons la contre-vérité des urnes.
Oui.
Je vous remercie.
Non, à nous de vous remercier, docteur Amaïzo, et c'est peut-être le lieu de rappeler à la diaspora togolaise, aux membres de la diaspora togolaise, que le moment est venu de participer au Conseil mondial de la diaspora, qui reste, jusqu'à preuve du contraire, l'association principale, motrice des forces vives de la diaspora togolaise. Le président de ce Conseil mondial, Docteur Amouzou se bat avec des amis, y compris Docteur Amaïzo, pour que le Conseil devienne une propriété de tous les éléments de la diaspora togolaise. Docteur Amaïzo, merci pour votre temps, merci d'être venu à FM Liberté, votre radio, notre radio. Au revoir et bonne journée chez vous à Vienne.
Merci.
Parcours débat d'idées, débat tous azimuts. Parcours, une émission de Code Repo tous les samedis sur FM Liberté.
www.fmliberté.com